podcasts de Radio Vatican.
Le droit à l'éducation demeure bafoué dans de nombreux pays. Selon un rapport de l'UNESCO de 2015, près de 124 millions d'enfants de 6 à 15 ans ne sont jamais allés à l'école. Le BIS, Bureau international catholique de l'enfance, organise ce mercredi 7 juin 2017 à Paris, au Collège des Bernardins, un congrès sur « Droit à l'éducation, éducation au droit, expérience partagée ». C'est son thème. Parmi les pays où la situation de l'éducation est particulièrement préoccupante figure la République centrafricaine. Les combats et l'insécurité permanente depuis des années ont complètement désorganisé le système éducatif du pays. Ange Anatole Gnasséméo, le directeur de Voix du Cœur, une ONG centrafricaine qui travaille au quotidien avec des enfants des rues, revient sur l'état de l'éducation en République centrafricaine.
La situation de l'éducation en Centrafrique, dans un contexte de post-conflit, parce que nous sommes dans une situation de sécurité, est très très difficile, vu que la rentrée scolaire a été négociée pour dire que retardée à l'université. Par exemple, c'est au mois de mars qu'on a ouvert l'année académique et que pour le moment, on a essayé de conjuguer, de faire avec la situation de l'insécurité pour arriver maintenant à l'état actuel où on prépare les examens, le bac et d'autres examens. Bon, c'est faire avec. Dans un contexte très, très difficile et d'insécurité.
Quels sont les besoins les plus criants en matière d'éducation?
Les besoins, c'est d'abord, il faudrait dire que les établissements ont été occupés par les rebelles, par les envahisseurs qui ont détruit ces écoles-là. Donc, c'est question d'infrastructure surtout. Et maintenant, il faudrait aussi parler de besoins d'enseignants de qualité pour une éducation de qualité. Donc, pour le moment, dans les provinces, c'est surtout les maîtres parents qui agissent à la place des enseignants diplômés et tout. Parce que là où on a envoyé des instituteurs qualifiés, à cause de l'insécurité, ils ne sont pas allés. Alors du coup, c'est la communauté villageoise qui s'organise avec des maîtres parents qualifiés à la matière pour enseigner des enfants. Donc vous voyez que c'est un contexte très difficile en matière éducative.
Est-ce que selon vous, le principal obstacle, c'est l'insécurité qui règne encore dans le pays aujourd'hui ou bien c'est vraiment le manque de moyens, tant matériels que humains?
Les deux à la fois, je dirais. Les enfants viennent à l'école et à moins de crépitements, ils sont obligés d'abandonner les établissements et rentrer à la maison. Et s'il y a des crépitements et des armes autour, les enfants ne peuvent pas se concentrer pour suivre les leçons et même étudier la nuit. Et voilà, donc c'est d'abord l'insécurité. Deuxièmement, c'est d'abord les moyens. Les moyens qui manquent beaucoup, les moyens didactiques, surtout, parce que tout a été emporté, pillé, vandalisé, et tout qui fait que voilà, les enseignants ne disposent pas des moyens adéquats pour transmettre des connaissances à la nouvelle génération.
De ce côté-là, est-ce que vous sentez que le gouvernement essaye de faire son possible pour rétablir la situation ou bien constatez-vous que l'éducation n'est pas sa priorité?
On ne sent pas tellement une volonté politique qui agirait dans le sens d'asseoir la sécurité. D'abord, parce que si on parle d'éducation, il faudrait un environnement éducatif et d'abord toute la sécurité. Donc on ne voit pas tellement cette volonté politique vu que dans cette situation de guerre, le gouvernement a peu d'autorité et il n'agit pas tellement. Donc je vois que c'est là où le bât blesse et puis ça rend difficile l'éducation dans le pays.
L'éducation, selon vous, peut être le moyen de construire une société qui soit apaisée?
Je suis très convaincu que le dénominateur commun du développement de notre pays après ce temps de conflit et de guerre, c'est d'abord une population instruite et éduquée. Et je crois, pour ma part, qu'il faudrait une éducation de qualité et de faire de l'éducation un droit. Et la société de demain ne peut se bâtir que sur une génération éduquée. Ce qu'on a vécu au pays a démontré que jusque-là, on n'a pas fait assez sur le plan éducatif. Il ne suffit pas seulement d'inculquer des connaissances, il faudrait être éduqué sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan humanitaire et tout.
Est-ce que vous considérez, rétrospectivement, que les carences constatées dans l'éducation en République centrafricaine ces dernières décennies peuvent expliquer en partie ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé très récemment?
Ça s'explique vu qu'on a connu des années blanches et qu'on a connu des cas de mutinerie. Et à chaque 10 ans, il faudrait revenir à la case de départ. Donc, l'éducation n'est pas restée sur une ligne droite. Et les résultats peuvent être vérifiés pendant le conflit qu'on a connu, qu'il y a eu une manipulation de la jeunesse peu éclairée et peu éduquée qui ont posé des actes odieux qui vont à l'encontre des droits humanitaires. Et tout.
L'UNESCO, bien sûr, aux avant-postes dans la lutte pour ce droit à l'éducation. L'agence onusienne s'appuie sur des centaines d'organisations locales qui travaillent au quotidien avec les enfants, comme Voix du Cœur. Cette interconnexion est essentielle pour mener à bien la prise en charge de tous les enfants. Chantal Pézan, doyen honoraire, Institut supérieur de pédagogie de l'Institut catholique de Paris et représentante du BIS auprès de l'UNESCO, revient sur l'apport essentiel que représentent toutes ces ONG de terrain.
L'éducation est finalement la base, la condition même de développement harmonieux de l'enfant, de son potentiel intellectuel, physique, d'abord affectif, social, créatif, etc. Et la condition de base finalement d'exercice de tous les droits humains. Mais entre le principe et les réalités effectives, les écarts continuent à être considérables. L'apport, toute la richesse d'expérience que représentent les organisations non gouvernementales partenaires de l'UNESCO, c'est d'aider à relier ces grands principes et les réalités. Il y a environ 400 ONG partenaires officiels de l'UNESCO. Imaginons la richesse d'expérience, de connaissance des situations humaines, des réalités des terrains, des résistants, des difficultés. Donc, contribuer à décliner les grands principes pour qu'ils rejoignent la réalité, qu'ils rejoignent surtout des programmes d'action concrets, là, je crois que c'est un grand apport.
Est-ce que ce n'est pas non plus une manière, peut-être pour l'UNESCO, de se désengager face à l'ampleur de la tâche et de s'appuyer davantage ainsi sur ces ONG ?
Première responsabilité dans le domaine de l'éducation revient aux États. Et donc, bien tout un travail pour qu'il y ait vraiment une collaboration entre États et les organisations de la société civile et pas une logique de substitution. Et comment impliquer aussi les communautés, comment impliquer aussi les familles, comment travailler en réseau aussi. Parce que je crois qu'une des clés, c'est ne pas faire dans son coin. À partir du moment où dans le même pays, même région, différentes organisations non gouvernementales travaillent sur le terrain de l'éducation, on voit d'ailleurs, il y a beaucoup d'expériences témoignant de la manière dont elles se rapprochent les unes des autres, réfléchissent ensemble au contexte où elles interviennent, ce qu'il est possible de faire, et essaient de mener des actions conjointes.
Un entretien réalisé par Xavier Sartre.